Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel, du vendredi 15 juin 2018. Eric Manelakiza en direct de Washington, voici les titres. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont opposés à une demande d'importation d'armes chinoises en Centrafrique. Moïse Katumbi, interpellé à l'aéroport de Bruxelles, l'opposant congolais, avait un passeport falsifié. Les communautés religieuses sénégalaises célèbrent l'Eid el-Fitr solidairement, une première depuis des années. Et le président américain Donald Trump a imposé de nouvelles taxes douanières sur des importations chinoises. Tout d'abord, le journal de la deuxième journée du Mondial 2018 en Russie, Yacouba Ouedraogo, avec vous. Voilà, trois affiches aujourd'hui, deux matchs déjà terminés. L'Espagne et le Portugal jouent encore. Le score est de 3-2 en faveur d'Espagne. Yacouba pour la suite des résultats.
Bonsoir à tous. L'Afrique a débuté son mondial par une défaite dans ce qui peut être considéré comme le choc du groupe A. L'Uruguay a fini par faire plier l'Égypte. Edinson Cavani et Luis Suarez ont essayé, mais c'est finalement le défenseur central José María Jiménez qui a offert à l'Uruguay une victoire in extremis 1-0 face à l'Égypte, très handicapée par l'absence de Mohamed Salah. Pendant 90 minutes, les Uruguayens ont buté sur la défense égyptienne solidaire et physique, puis sur le gardien Mohamed El Shenawy. Mais dans la dernière minute du temps réglementaire, Jiménez a sauté très haut sur un coup franc excentré pour placer sa tête dans le petit filet. Loin d'elle, Shenawy impuissant cette fois-ci. La domination constante de la Céleste rend son succès mérité, mais il est cruel tout de même pour les pharaons. Notre consultant Élisée Oumpatine a suivi ce match. Voici sa lecture depuis Boïcon au Bénin.
L'équipe d'Égypte qui a été finalement privée de Mohamed Salah, toujours blessé, s'est inclinée 1-0. C'est assez cruel pour cette sélection de retour en Coupe du Monde après 20 ans d'absence. Si cette défaite face aux favoris du groupe A n'a rien de défamante, elle reste difficile à avaler pour les hommes d'Hector Cooper qui tentaient de finir le match nul avec cette une bonne dose de réussite. Et les parents avaient montré beaucoup de générosité et ont fait une belle résistance malgré l'absence de la star de cette équipe, l'attaquant. Mohamed Salah était conduite et est resté sur le banc malgré un contenu encourageant. Les Égyptiens vont devoir se remettre de cette déception pour depuis mardi prochain la Russie. Ils devront rapidement se ressaisir face à la Russie, bien sûr, s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale.
Dans le second match de la journée, le premier du groupe B, les Lions de l'Atlas ne devraient pas se louper d'entrée devant l'Iran. Malgré sa nette domination, le Maroc a buté sur l'Iran 0-1 qui a réussi le hold-up parfait. Les Lions de l'Atlas ont mis pourtant la pression d'entrée, mais Ziyech manquait le ballon en voulant frapper dans la surface. Puis le joueur de l'Ajax, Belanda et Benassia de la Juve sur une énorme triple occasion. En dépit de leur domination presque sans partage, les hommes d'Hervé Renard ont manqué de précision dans la zone de vérité face à une sélection perse qui s'est entre-temps réveillée et a commencé à porter le danger en contre. Les Marocains ont payé cash ces énormes occasions manquées. En fin de match, à la 94e minute, sur un coup franc, Aziz Boadbouz a commis l'irréparable en inscrivant un but contre son camp. Scénario presque identique avec ce qui est arrivé à l'Égypte qui s'est aussi incliné en fin de rencontre. Demain, l'Afrique réapparaît avec la première sortie du Nigeria dans ce mondial. Les Super Eagles feront face à la Croatie d'Ivan Rakitic et de Luka Modric à 19h temps universel dans le groupe D. Bien avant toujours, dans ce même groupe, l'Argentine fera face à l'Islande qui joue son premier mondial à 13h. À suivre aussi dans le groupe C, Pérou-Danemark à 16h et France-Australie à 10h. Justement, même si les Australiens ne sont pas un gros morceau, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, joue la carte de la prudence.
L'objectif se rapproche, c'est mordre à pleines dents, comme si c'était une pomme, et voilà, faire tous les efforts individuels et collectifs pour que l'équipe de France soit la plus compétitive possible. Je ne vais pas faire une préparation spécifique par rapport à un tel ou un tel. C'est des joueurs qui sont habitués au niveau. Évidemment, c'est la Coupe du Monde, c'est le summum. Et c'est notre premier match pour nous demain. Et ce premier match est toujours très important.
Le temps de cette Coupe du Monde est donc donné. Et ce week-end nous réservera sans doute encore des surprises, comme cela est le cas le plus souvent au football. En attendant, on se dit au revoir sur le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Seconde journée de Coupe du Monde sur fond de déception pour l'Afrique, dont les deux premiers représentants ont foulé les pelouses pour le même résultat au Marcoir et des courtes défaites imméritées, déjà lourdes de conséquences. Surtout pour le Maroc qui rencontrait une des équipes les plus faibles théoriquement du tournoi, l'Iran, la sélection chérifienne semblait avoir des atouts individuels et tactiques autorisant un résultat contre l'équipe la moins cotée du groupe. D'entrée de jeu, le Maroc se voit obligé de se payer le scalp d'au moins un des favoris légitimes, le Portugal champion d'Europe antique ou l'Espagne, récent champion du monde et d'Europe, excusez du peu. 2 heures auparavant, l'Égypte, dont l'entraîneur Hector Cooper avait pratiquement gagné la bataille tactique en faisant des jeux l'Uruguay du duo Cavani-Suarez, a laissé filer un nul précieux à l'ultime minute de jeu sur un coup de pied arrêté. L'Égypte devra jouer de tout pour le tout face au pays organisateur qui a retrouvé des couleurs après la volée de bois vert administrée à l'Arabie Saoudite en match ouvert. Cruelle Coupe du Monde qui rappelle d'entrer ses principes de jeu aux équipes africaines. Il ne suffit plus de tenir le ballon, de réussir son plan tactique, de plaire, de dominer. L'essentiel est d'être efficace, à commencer par la concrétisation des balles arrêtées, point faible des sélections africaines. Le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal sont avertis pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui. À bientôt.
Voilà le coup de sifflet final, mais il y a le Portugal et l'Espagne qui jouent. On est à la 78e minute et l'Espagne mène par 3-2. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont opposés à une demande d'importation d'armes chinoises en Centrafrique. Le pays est soumis depuis 2013 à un embargo sur les armes. Le point avec Marie Benso.
La ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara, a demandé à l'ONU de lever en partie l'embargo pour autoriser l'importation d'armes chinoises pour équiper son armée et sa police. La France et les États-Unis ont fait remarquer qu'il n'y avait pas de menace d'attaque aérienne contre la Centrafrique, pouvant justifier l'acquisition de certaines armes. Le Royaume-Uni s'inquiète du transit de ses armes par le Cameroun sans escorte jusqu'à la frontière centrafricaine. L'équipement que la Chine veut fournir à la police et à l'armée de Bangui regroupe des armes lourdes comme des véhicules blindés, des mitrailleuses, des grenades et des armes à feu. La demande d'exemption de Bangui est soutenue par la mission de l'ONU en Centrafrique qui subit régulièrement des attaques de groupes armés.
Marie Benson et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en visite officielle ce jeudi à Libreville a demandé au Gabon de maintenir ses 1344 soldats qui participent au sein de la mission de l'ONU en Centrafrique. Libreville avait décidé de les retirer en juin. L'opposant congolais en exil de Moïse Katumbi accuse le régime de Kinshasa d'instrumentaliser les services de l'État congolais après son interpellation à l'aéroport de la capitale belge avec un passeport falsifié. Plus de précisions avec Bagassikoura. Nous parlons de l'interpellation de Moïse Katumbi à l'aéroport international de Bruxelles. Suivez les détails avec Bagassikoura.
Selon les médias belges, Moïse Katumbi a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi par la police de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem alors qu'il revenait en jet privé d'un déplacement en Israël. Selon une source proche du dossier, un problème avec la page du passeport où figure son identité a été visiblement rajouté au document d'origine. L'opposant congolais a toutefois été autorisé à rester en Belgique pour régulariser sa situation. Dans un communiqué, Moïse Katumbi dénonce une instrumentalisation des institutions de l'État par le régime de Kinshasa et un acharnement continu du pouvoir contre sa personne. Selon lui, l'incident provient du fait que les passeports semi-biométriques tels que le sien ont été retirés par les autorités congolaises et qu'une demande de passeport biométrique lui a été refusée sans aucune raison valable. L'opposant a 2 semaines pour régulariser sa situation auprès de l'ambassade de la RDC à Bruxelles.
Nous, on y reviendra, Bagassi, dans la seconde partie de cette édition. La Belgique s'apprête à recevoir Jean-Pierre Bemba dans les prochains jours. D'après le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, Bruxelles a répondu favorablement à la demande de la CPI d'accueillir l'ex-vice-dirigeant congolais récemment acquitté par la Chambre d'appel de cette juridiction. Toujours en RDC, un prêtre catholique guéri d'Ebola après un traitement des symptômes est considéré comme un héros par les habitants du village d'Itipo dans la province d'Équateur. Arrestation en Ouganda de l'ancien chef de la police, le général Kale Kayihura, pour être interrogé par l'armée. Et le président ougandais Yoweri Museveni et un responsable chinois ont inauguré aujourd'hui une nouvelle portion d'autoroute destinée à relier la capitale Kampala au seul aéroport international d'Entebbe. Au moins 10 réservistes de l'armée tanzanienne ont été tués ce jeudi. Leur bus qui transportait un nombre de passagers plus de deux fois supérieur à sa capacité s'est renversé à Igodima. Et les Pays-Bas ont annoncé le retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali pour intensifier leur contribution en Afghanistan à la mission de l'OTAN. Les troupes néerlandaises font partie de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali depuis avril 2014. Et les Pays-Bas y ont déployé jusqu'à 400 soldats. Près de 250 Néerlandais sont actuellement stationnés au Mali. Au Sénégal, malgré quelques réticences entre les autorités religieuses, l'Aïd el-Fitr a été fêté aujourd'hui par l'ensemble de la communauté musulmane. Une première depuis des années, le président Macky Sall a saisi l'opportunité pour appeler l'opposition au dialogue, selon notre correspondant sur place, Seydina Abagay.
Une chorité à l'unisson, le Sénégal n'en avait plus connu depuis quelque temps déjà. Ce vendredi a donc scellé une entente ponctuelle entre les musulmans du pays qui ont fêté l'Aïd el-Fitr ensemble. Pourtant hier, jusque tard dans la nuit, la confusion régnait toujours entre la Commission nationale d'observation du croissant lunaire et la puissante confrérie mouride qui avait décidé de fêter l'Aïd ce samedi. Confusion vite dissipée par le calife général des mourides qui s'est aligné sur la décision de la Commission nationale permettant au pays de fêter l'Aïd el-Fitr dans l'Union. Au-delà des considérations religieuses, la fête de l'Aïd a une nouvelle fois été l'occasion pour les hommes politiques de se montrer. Dans ce sillage, le président Macky Sall a appelé l'opposition à l'unité nationale. Il a invité la classe politique à participer aux différentes concertations, notamment celles sur la gestion du pétrole et du gaz, d'autant plus qu'il s'agit d'une question nationale. Le chef de l'État a également salué l'unité des confréries religieuses qui participent à maintenir un islam de paix et de tolérance au Sénégal. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, le président américain Donald Trump met ses menaces à exécution en annonçant l'imposition de nouvelles taxes douanières de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises. Pékin a immédiatement annoncé des mesures de rétorsion. Le point avec Idriss Fall.
Cette situation ne peut plus durer, a estimé Donald Trump, citant des pratiques commerciales déloyales et des centaines de milliards de dollars de déficit. Il a donc décidé qu'à partir du 6 juillet, sur les 50 milliards de dollars de produits chinois importés, 34 milliards seront taxés. Un second lot de 16 milliards sera examiné de plus près. Le président américain a déjà imposé en mars des taxes de 25% sur les importations d'acier chinois et de 10% sur celles d'aluminium. Malgré un consensus avec Pékin le 19 mai, la Maison-Blanche avait fixé le 15 juin comme date butoir pour annoncer ces nouvelles mesures. De son côté, la Chine annonce qu'elle va prendre immédiatement des mesures douanières de pareille ampleur. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a eu hier à Pékin des propos assez durs avec Wang Yi, son homologue chinois, qui a cependant exhorté Washington à éviter une approche perdante pour les deux partenaires.
Idriss Fall, le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a accusé aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine de chercher à réduire l'influence des démocraties occidentales et saper l'autorité morale des États-Unis. Péninsule coréenne, Jim Mattis a affirmé que les États-Unis restaient vigilants sur la question du nucléaire nord-coréen, même si le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un a ouvert une possible nouvelle voie vers la paix. Le chef du gouvernement populiste italien Giuseppe Conte et le président français Emmanuel Macron ont affiché une certaine unité aujourd'hui sur la gestion des migrants en Europe. Voilà pour les journaux. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Eric Manirakiza toujours avec vous. L'ex-gouverneur de la région du Logoné oriental au Tchad, Adam Nouki Sharfadine, est de commandant de la gendarmerie impliqué dans la tentative d'assassinat de l'avocat Doumra Manassé et ses clients, relaxés par la justice de Doba, ont été arrêtés hier par les autorités judiciaires. Cette arrestation est la résultante d'une longue grève des magistrats et auxiliaires de justice. Notre correspondant sur place, André Kodmajingar, a les détails.
C'est par un mandat d'amener émis par le parquet général de N'Djamena que l'ex-gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Sharfadine, et deux commandants de la Légion de la gendarmerie de Doba ont été arrêtés par les éléments de la section nationale de recherche judiciaire. Cette interpellation intervient après plus de deux semaines de débrayage du personnel judiciaire qui paralyse l'appareil judiciaire sur toute l'étendue du territoire national. Le président du syndicat des magistrats du Tchad, Alara Kété Sanengar, ne considère pas cette arrestation comme un pas de gagné dans la lutte. Pour lui, Adam Nouki Sharfadine est un repris de justice et comme tel, il doit être condamné conformément à la loi.
L'ex-gouverneur et ses hommes ont voulu se mesurer avec la justice parce qu'il s'agit là d'un discrédit lancé sur une décision judiciaire et sur l'indépendance de la justice. C'est prévu et puni par l'article 144 de notre code pénal. Il allait jusqu'à déclarer que le comportement de nos magistrats ne rime pas avec la volonté de la 4e République. Nous ne savons pas si la volonté de la 4e République c'est de créer des impunis, c'est de tuer et marcher sur les gens et sans être puni. Il y a un concours d'infractions contre lui, étant entendu que lui-même il est déjà un ancien condamné. Le moment venu, un par un, nous allons sortir tous ces faits pour que ce multirécidiviste soit corrigé.
La plateforme des auxiliaires de justice, à savoir avocats, notaires et huissiers du Tchad qui passent des grèves perlées à une grève illimitée pour exiger l'arrestation de ces autorités pour tentative d'assassinat, se réjouit du déclenchement de la procédure. Pour le secrétaire de l'ordre des avocats du Tchad, un pas est franchi, mais la grève ne sera levée que par l'Assemblée nationale. Maître Dumadoum Kemtok Emmanuel.
Je ne sais pas si toutes les personnes impliquées dans cette fusillade là ont été auditionnées ou si c'est seulement le gouverneur, le commissaire adjoint et puis le commandant de brigade. Donc, je ne peux pas dire que oui, on va lever le mot d'ordre de grève. Non, on ne va pas lever. Non. Donc, on attend que les mises en cause soient déférées devant M. le procureur de la République.
Maître Doumra Manassé, qui a échappé à cette tentative d'assassinat, informe que l'un de ses clients, qui semble être un témoin gênant dans cette affaire, libéré par la justice puis récupéré par ses autorités militaires, serait porté disparu.
Vendredi, la famille a commencé par faire déjà le fait parce que le procureur de Doba a crié dans Doba. Ils m'ont rassuré qu'il n'est ni à l'ANS de Doba ni détenu à Moundou. Pour la famille, il est exécuté.
Ces présumés auteurs sont toujours gardés à la section nationale de recherche judiciaire. Ils seront transférés au parquet général que quand toutes les parties sont auditionnées sur procès verbal. André Kodmajingar Djamena, VO Afrique.
VO Afrique. N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Pour vous qui suivez le mondial, le Portugal vient d'égaliser il y a un instant. 3-2 avec l'Espagne. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, a été interpellé à l'aéroport de la capitale belge avec un passeport falsifié. Il accuse le régime de Kinshasa, de Joseph Kabila, d'instrumentaliser les services de l'État congolais. Eddie Sangwa a interviewé son collaborateur Francis Kalombo.
Depuis quelques mois maintenant, Moïse Katumbi a fait une demande pour avoir le nouveau passeport. Chose impensable, l'ambassade de la République démocratique du Congo ne lui a toujours pas donné la possibilité de pouvoir avoir. Donc avec les instructions de Kinshasa, de ne pas lui octroyer le nouveau passeport biométrique. Ce qui fait que Moïse Katumbi continue à voyager avec l'ancien passeport, ce qui a posé un problème. Et ici, l'occasion pour nous de féliciter les autorités belges qui ont agi rapidement en lui octroyant un séjour. Donc maintenant, nous pensons que la République démocratique du Congo devait prendre conscience pour que le plus rapidement possible, on puisse lui délivrer un passeport dont il a droit.
On parle des falsifications de documents. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Il n'a pas intérêt. Moïse détient un passeport qui est valable jusqu'en 2020. Sauf que ce passeport-là, la République démocratique du Congo ne le veut plus. Ils l'ont supprimé. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Et comment il peut faire un faux passeport alors que c'est son passeport, c'est avec ça qu'il voyage. Le passeport est valable jusqu'en 2020, sauf que le Congo, en changeant des passeports, au lieu de laisser les gens continuer avec les anciens passeports, eh bien, ils ont annulé carrément le passeport de Moïse Katumbi, c'est-à-dire son ancien passeport. Mais au lieu de lui délivrer le nouveau passeport, vous avez suivi dans le média, il s'est présenté à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, qui depuis n'a jamais donné suite. On lui a dit qu'on va l'appeler, ils doivent d'abord demander l'autorisation à Kinshasa, et depuis Kinshasa, étant donné qu'on a même instrumentalisé les institutions pour, au service d'une cette personne, et bien jusqu'à aujourd'hui, on ne lui a toujours pas donné la possibilité d'obtenir ce nouveau passeport. C'est ce que Moïse Katumbi attend jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il doit prendre conscience que ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer la République, même si on ne veut pas de Moïse Katumbi, mais lui priver d'un instrument, d'un passeport dont il a le droit, on se demande jusqu'où ils vont aller. Au moins ça, c'est l'acharnement pur et simple jusqu'à un document élémentaire. En fait.
Les autorités congolaises accusent M. Moïse Katumbi d'usurpation des nationalités. Est-ce que vous pensez que c'est lié?
Mais d'abord, c'est faux, ça ne s'est jamais prouvé. Ni les procureurs, ni les juges. Vous savez, Moïse Katumbi, on l'accuse de tout. Hein. Donc Moïse Katumbi est congolais, il est né au Congo, grandi au Congo, il a toujours eu son passeport.
Pensez-vous qu'il sera à même de se rendre au Congo?
Il n'y a pas d'autre choix. Nous pensons que le monde entier doit condamner cette manière de faire de la République démocratique du Congo, à empêcher quelqu'un, parce qu'on sait qu'il est populaire.
Francis Kalombo, collaborateur de l'opposant congolais Moïse Katumbi.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Dans le pays des hommes intègres, au Burkina Faso, la question sur la rémunération des agents de la fonction publique alimente les débats. Les syndicalistes et le gouvernement ont été en discussion pendant 3 jours à Ouagadougou et se sont entendus sur certaines recommandations. Le point sur cette conférence avec notre correspondant dans la capitale, Lamine Traoré.
Le Burkina Faso, depuis plusieurs mois, connaît des mouvements sociaux. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé d'organiser cette conférence sur le système des rémunérations des agents de la fonction publique. Le but, parvenir à maîtriser la masse salariale et instaurer un principe d'équité dans le traitement des fonctionnaires. Guy Olivier Ouédraogo, porte-parole des syndicats.
Nous sommes arrivés à un résultat qui nous satisfait parce que 80% des travailleurs qui souffraient de cette inéquité verront effectivement leur salaire revalorisé pour être au même niveau que les 20% qui avaient effectivement un niveau de salaire acceptable.
Selon les conclusions des travaux, 80% des fonctionnaires verront une augmentation de salaire. Souleymane Zoroumé, du syndicat des gestionnaires des ressources humaines, a participé aux travaux. Lui, il salue cette initiative du gouvernement.
Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout n'est pas à 100% acquis, mais déjà reconnaître que le gouvernement, il y a un traitement inégalitaire, inéquité entre les travailleurs. Reconnaître cela, prendre langue pour corriger cela, ça c'est un aspect positif pour nous.
Les participants se sont aussi penchés sur la réduction du train de vie de l'État. Parmi les recommandations, la suppression du poste du haut représentant du chef de l'État, du médiateur du FASO ou encore le Haut Conseil pour la Réconciliation Nationale. Aussi, les ministres et députés ne doivent plus bénéficier de leurs avantages et rémunérations 3 mois après la cessation de leurs fonctions. Les travailleurs des finances qui ont entamé un bras de fer avec le gouvernement n'ont pas pris part au débat. Rosine Sori Koulibaly, ministre de l'économie et des finances.
La réunion n'a pas parlé de suppression du fonds commun. Et la réunion a dit ramenons ça à des niveaux acceptables pour que cela puisse être géré. Je crois que avec cela, j'espère que nous allons avoir la compréhension des uns et des autres.
Les recommandations de cette conférence ne vont pas dormir dans les tiroirs. Paul Kabatieba, premier ministre.
Les recommandations pertinentes issues de cette conférence seront mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la refondation du contrat social avec les agents publics de l'État.
Des experts devront travailler pour la mise en œuvre de ces recommandations dans les 5 mois à venir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews et des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine.
Le Monde aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30 temps universel sur VOA Afrique. Retrouvez-nous également sur notre site internet voaafrique.com et sur Facebook. À bientôt.
Il n'est jamais trop tard, jamais trop tard.
Voilà, on est vendredi, Ismaël Isaac qui nous chante petit à petit. Et c'est la fin de cette édition. Eric Manirakiza était à la présentation. Lionel Gaïma sur la mise en onde à la console. Shedrick Franklin. Ainsi va le monde aujourd'hui. Et n'oublie pas de profiter de votre vie. Elle vous apporte une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com. L'actualité 24h sur 24. Portez-vous bien. À très bientôt.
Petit à petit, petit à petit, donne-ni, 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 molo, 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 il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ton ami a de la chance. Ton ami a de l'argent. Pourquoi toi tu es jaloux? Pourquoi toi tu es bien beau? Petit à petit.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabab, al-Mujahideen ou al-Shabab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisations terroristes, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ces militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquête et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.